Spinoza, Éthique, partie 4, de la proposition 17 à la proposition 37 comprise. Proposition 17. Un désir qui naît de la connaissance vraie du bon et du mauvais, en tant qu'elle a trait à des choses contingentes, peut encore bien plus facilement être réduit par le désir des choses qui sont présentes. Démonstration. Cette proposition se démontre de la même manière que la précédente en se fondant sur le corollaire de la proposition 12. Scoli. Je crois avoir démontré par ce qui précède la cause pourquoi les hommes sont plus émus par l'opinion que par la raison vraie. Et pourquoi la connaissance vraie du bon et du mauvais excite des émotions dans l'âme et le cède souvent à tout genre d'appétit sensuel, d'où ce mot du poète « Je vois le meilleur et je l'approuve, je fais le pire ». L'Ecclésiaste paraît avoir eu la même pensée en disant « Qui accroît sa science, accroît sa douleur ». Et si je dis cela, ce n'est pas en vue d'en conclure que l'ignorance vaut mieux que la science, ou qu'entre un sot et un homme d'entendement, il n'y ait aucune différence en ce qui touche le gouvernement des affections. C'est parce qu'il est nécessaire de connaître tant l'impuissance que la puissance de notre nature, afin que nous puissions déterminer ce que peut la raison et ce qu'elle ne peut pas pour le gouvernement des affections. Et j'ai dit que, dans cette partie, je traiterai seulement de l'impuissance de l'homme, car j'ai résolu de traiter séparément de la puissance de la raison sur les affections. Proposition 18. Un désir qui naît de la joie est plus fort, toute chose égale d'ailleurs, qu'un désir qui naît de la tristesse. Démonstration. Le désir est l'essence même de l'homme, définition 1 des affections, c'est-à-dire, proposition 7, partie 3, un effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Un désir qui naît de la joie est donc secondé ou accru par cette affection même de joie. Définition de la joie dans le scoli de la proposition 11, partie 3. Au contraire, celui qui naît de la tristesse est diminué ou réduit par cette affection même de tristesse, même scoli. Et ainsi, la force du désir qui naît de la joie doit être définie à la fois par la puissance de l'homme et celle de la cause extérieure. Celle, au contraire, du désir, qui naît de la tristesse par la seule puissance de l'homme, le premier désir, ainsi, est plus fort que le deuxième. CQFD. Scoli. J'ai expliqué dans ce petit nombre de propositions les causes de l'impuissance et de l'inconstance de l'homme et pourquoi les hommes n'observent pas les préceptes de la raison. Il me reste à montrer ce que la raison nous prescrit et quelles affections s'accordent avec les règles de la raison humaine, quelles leur sont contraires. Avant toutefois de commencer à le démontrer suivant l'ordre prolixe des géomètres que j'ai adopté, il convient ici de faire d'abord connaître brièvement ces commandements de la raison, afin qu'il soit plus aisé à chacun de percevoir mon sentiment. Comme la raison ne demande rien qui soit contre la nature, elle demande donc que chacun s'aime lui-même, cherche l'utile propre, ce qui est réellement utile pour lui, appète tout ce qui conduit réellement l'homme à une perfection plus grande, et, absolument parlant, que chacun s'efforce de conserver son être autant qu'il est en lui. Et cela est vrai aussi nécessairement qu'il est vrai que le tout est plus grand que la partie, voir proposition 4, partie 3. Ensuite, puisque la vertu, définition 8, ne consiste en rien d'autre qu'à agir suivant les lois de sa nature propre, et que personne ne peut conserver son être, proposition 7, partie 3, sinon suivant les lois de sa nature propre, il suit de là, premièrement, que le principe de la vertu est l'effort même pour conserver l'être propre, et que la félicité consiste en ce que l'homme peut conserver son être. Deuxièmement, que la vertu doit être appréciée pour elle-même, et qu'il n'existe aucune chose valant mieux qu'elle ou nous étant plus utile, à cause de quoi elle devrait être appétée. Troisièmement, enfin, que ceux qui se donnent la mort ont l'âme frappée d'impuissance et sont entièrement vaincus par les causes extérieures en opposition avec leur nature. Il suit, en outre, du postulat 4, partie 2, qu'il nous est toujours impossible de faire que nous n'ayons besoin d'aucune chose extérieure à nous pour conserver notre être, et vivions sans commerce avec les choses extérieures. Si par ailleurs nous avons égard à notre âme, certes notre entendement serait plus imparfait si l'âme était seule et qu'elle ne connût rien en dehors d'elle-même. Il y a donc hors de nous beaucoup de choses qui nous sont utiles et que pour cette raison il nous faut appéter. Parmi elles, la pensée n'en peut inventer de meilleure que celle qui s'accorde entièrement avec notre nature. Car, si, par exemple, deux individus entièrement de même nature se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu deux fois plus puissant que chacun séparément. Rien donc de plus utile à l'homme que l'homme. Les hommes, dis-je, ne peuvent rien souhaiter qui vaille mieux pour la conservation de leur être que de s'accorder tous en toutes choses, de façon que les âmes et les corps de tous composent en quelque sorte une seule âme et un seul corps, de s'efforcer tous ensemble à conserver leur être, et de chercher tous ensemble l'utilité commune à tous. D'où suit que les hommes qui sont gouvernés par la raison, c'est-à-dire ceux qui cherchent ce qui leur est utile sous la conduite de la raison, n'appètent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes, et sont ainsi justes, de bonne foi et honnête. Tels sont les commandements de la raison que je m'étais proposé de faire connaître ici en peu de mots avant de commencer à les démontrer dans l'ordre avec plus de prolixité. Et mon motif pour le faire a été d'attirer, s'il est possible, l'attention de ceux qui croient que ce principe « chacun est tenu de chercher ce qui lui est utile » est l'origine de l'immoralité, non de la vertu et de la moralité. Après avoir montré brièvement que c'est tout le contraire, je continue à le démontrer par la même voie que nous avons suivie jusqu'ici dans notre marche. Proposition 19. Chacun appète ou a en aversion nécessairement par les lois de sa nature ce qu'il juge être bon ou mauvais. Démonstration. La connaissance du bon et du mauvais est, proposition 8, l'affection même de la joie ou de la tristesse, en tant que nous en avons conscience. Et par suite, proposition 28, partie 3, chacun appète nécessairement ce qu'il juge être bon et a au contraire en aversion ce qu'il juge être mauvais. Mais cet appétit n'est rien d'autre que l'essence même ou la nature de l'homme. Définition de l'appétit dans le scolier de la proposition 9, partie 3, et définition 1 des affections. Chacun donc, par les seules lois de sa nature, appète ou a en aversion nécessairement, etc., CQFD. Proposition 20. Plus on s'efforce à chercher ce qui est utile, c'est-à-dire à conserver son être, et plus on en a le pouvoir, plus on est doué de vertu. Et au contraire, dans la mesure où l'on omet de conserver ce qui est utile, c'est-à-dire son être, on est impuissant. Démonstration. la vertu est la puissance même de l'homme, qui se définit par la seule essence de l'homme, définition 8, c'est-à-dire, proposition 7, partie 3, qui se définit par le seul effort par où l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Plus donc l'on s'efforce de conserver son être, et plus on en a le pouvoir, plus on est doué de vertu, et, conséquemment, propositions 4 et 6, partie 3, dans la mesure où quelqu'un omet de conserver son être, il est impuissant. C'est QFD. Scoli. Personne donc n'omet d'appéter ce qui lui est utile ou de conserver son être, sinon vaincu par des causes extérieures et contraires à sa nature. Ce n'est jamais, dis-je, par une nécessité de sa nature, c'est toujours contraint par des causes extérieures qu'on a la nourriture en aversion, ou qu'on se donne la mort, ce qui peut arriver de beaucoup de manières. L'un se tue, en effet, contraint par un autre qui lui retourne la main, muni par chance d'un glaive, et le contraint à diriger ce glaive vers son propre cœur. Ou encore, on est, comme Sénèque, contraint par l'ordre d'un tyran de s'ouvrir les veines, c'est-à-dire qu'on désire éviter un mal plus grand par un moindre. Ou enfin, c'est par des causes extérieures ignorées, disposant l'imagination et affectant le corps de telle façon qu'à sa nature se substitue une nature nouvelle, contraire, et dont l'idée ne peut être dans l'âme. Proposition 10, partie 3. Mais que l'homme s'efforce par la nécessité de sa nature à ne pas exister ou à changer de forme, cela est aussi impossible qu'il est impossible que quelque chose soit fait de rien, comme un peu de réflexion permet à chacun de le voir. Proposition 21. Nul ne peut avoir le désir de posséder la béatitude, de bien agir et de bien vivre, sans avoir en même temps le désir d'être, d'agir et de vivre, c'est-à-dire d'exister en acte. Démonstration. La démonstration de cette proposition, ou plutôt la chose elle-même, est évidente de soi et aussi par la définition du désir. Car le désir, définition 1 des affections, de vivre dans la béatitude, ou bien d'agir, etc., est l'essence même de l'homme. C'est-à-dire, proposition 7 partie 3, l'effort par lequel chacun s'efforce de conserver son être. Donc, personne ne peut avoir le désir, etc. CQFD. Proposition 22. On ne peut concevoir aucune vertu antérieure à celle-là, c'est-à-dire à l'effort pour se conserver. Démonstration. L'effort pour se conserver est l'essence même d'une chose. Proposition 7, partie 3. Si donc l'on pouvait concevoir une vertu antérieure à celle-là, c'est-à-dire à cet effort. L'essence d'une chose, définition 8, se concevrait antérieurement à elle-même, ce qui, comme il est connu de soi, est absurde. Donc, on ne peut concevoir aucune vertu, etc., c'est QFD. Corollaire. L'effort pour se conserver est la première et unique origine de la vertu, car on ne peut concevoir, proposition précédente, aucun autre principe antérieur à celui-là, et sans lui, proposition 21, nulle vertu ne peut être conçue. Proposition 23. L'homme, en tant qu'il est déterminé à faire quelque chose parce qu'il a des idées inadéquates, ne peut être dit absolument agir par vertu, mais seulement en tant qu'il est déterminé parce qu'il a une connaissance. Démonstration. En tant que l'homme est déterminé à faire quelque chose parce qu'il a des idées inadéquates, il est passif. Proposition 1, partie 3. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, définition 1 et 2, partie 3, qui ne peut se percevoir par sa seule essence, ou qui, en d'autres termes, définition vite, ne suit pas de sa vertu. Mais en tant qu'il est déterminé à faire quelque chose parce qu'il a une connaissance, il est actif, proposition 1, partie 3, c'est-à-dire, définition 2, partie 3, fait quelque chose qui se perçoit par sa seule essence, ou, définition 8, qui suit adéquatement de sa vertu. C'est QFD. Proposition 24. Agir par vertu absolument n'est rien d'autre en nous qu'agir, vivre et conserver son être. Ces trois choses n'en font qu'une. Sous la conduite de la raison, d'après le principe de la recherche de l'utile propre. Démonstration. Agir par vertu absolument n'est rien d'autre, définition 8, qu'agir par les lois de sa nature propre. Mais nous sommes actifs seulement en tant que nous connaissons, proposition 3, partie 3, donc agir par vertu n'est rien d'autre en nous, sinon agir, vivre et conserver son être sous la conduite de la raison. Et cela, corollaire de la proposition 22, d'après le principe de la recherche de l'utile propre, c'est QFD. Proposition 25. Personne ne s'efforce de conserver son être à cause d'une autre chose. Démonstration. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être est défini, proposition 7, partie 3, par la seule essence de la chose elle-même. Et de cette seule essence supposée donnée, non de celle d'une chose différente, il suit nécessairement, proposition 6, partie 3, que chacun s'efforce de conserver son être. Cette proposition est évidente, en outre, par le corollaire de la proposition 22. Car, si l'homme s'efforçait de conserver son être à cause d'une autre chose, cette chose serait ainsi la première origine de la vertu, comme il est connu de soi, ce qui, corollaire visé, est absurde. Donc, personne ne s'efforce, etc., c'est QFD. Proposition 26. Tout effort dont la raison est en nous le principe n'a d'autre objet que la connaissance, et l'âme, en tant qu'elle use de la raison, ne juge pas qu'aucune chose lui soit utile, sinon ce qui conduit à la connaissance. Démonstration. L'effort pour se conserver n'est rien sinon l'essence de la chose même. Proposition 7, partie 3. Qui, en tant qu'elle existe telle qu'elle est conçue comme ayant une force pour persévérer dans l'existence. Proposition 6, partie 3. Et faire les actions qui suivent nécessairement de la nature telle qu'elle est donnée. Définition de l'appétit dans le scolier de la proposition 9, partie 3. Mais l'essence de la raison n'est rien d'autre que notre âme en tant qu'elle connaît clairement et distinctement, scolier 2 de la proposition 40, partie 2. Donc, proposition 40, partie 2, tout effort dont la raison est le principe n'a d'autre objet que la connaissance. De plus, comme cet effort par lequel l'âme, en tant que raisonnable, s'efforce de conserver son être, n'est rien que connaissance, par la première partie de cette démonstration, cet effort pour connaître est donc, corollaire de la proposition 22, la première et unique origine de la vertu. Et nous ne nous efforçons pas de connaître les choses en vue d'une fin quelconque, proposition 25, mais au contraire, l'âme, en tant que raisonnable, ne pourra concevoir aucune chose qui soit bonne pour elle, sinon ce qui conduit à la connaissance. Définition 1. C'est QFD. Proposition 27. Il n'est aucune chose que nous sachions avec certitude être bonne ou mauvaise, sinon ce qui conduit réellement à la connaissance ou peut empêcher que nous la possédions. Démonstration. L'âme, en tant que raisonnable, n'appête rien d'autre que la connaissance, et ne juge pas qu'aucune chose lui soit utile, sinon ce qui conduit à la connaissance. Proposition précédente. Mais l'âme, proposition 41 et 43, partie 2, dont on verra aussi le scoli, n'a de certitude au sujet des choses qu'en tant qu'elle a des idées adéquates, ou ce qui, par le scoli 2 de la proposition 40, partie 2, revient au même, en tant qu'elle est raisonnable. Donc, il n'est aucune chose que nous sachions avec certitude être bonne pour nous, sinon ce qui conduit réellement à la connaissance, et aucune chose que nous sachions contraire, mauvaise, sinon ce qui empêche que nous ne possédions la connaissance. C'est QFD. Proposition 28. Le bien suprême de l'âme est la connaissance de Dieu, et la suprême vertu de l'âme, de connaître Dieu. Démonstration. L'objet suprême que l'âme peut connaître est Dieu, c'est-à-dire, définition 6, partie 1, un être absolument infini, et sans lequel, proposition 15, partie 1, rien ne peut ni être conçu. Par suite, propositions 26 et 27, la chose suprêmement utile à l'âme, ou son bien suprême, définition 1, est la connaissance de Dieu. De plus, l'âme est active seulement dans la mesure où elle connaît, propositions 1 et 3, partie 3, et dans la même mesure seulement, proposition 23, l'on peut dire absolument qu'elle fait quelque chose par vertu. La vertu absolue de l'âme est donc de connaître. Mais l'objet suprême que l'âme peut connaître est Dieu, comme nous l'avons déjà démontré. Donc, la suprême vertu de l'âme est de concevoir clairement ou de connaître Dieu. C'est QFD. Proposition 29. Une chose singulière quelconque, dont la nature est entièrement différente de la nôtre, ne peut ni seconder, ni réduire notre puissance d'agir. Et absolument parlant, aucune chose ne peut être bonne ou mauvaise pour nous si elle n'a quelque chose de commun avec nous. Démonstration. La puissance par laquelle une chose singulière quelconque et conséquemment, corollaire de la proposition 10, page 2, l'homme, existe et produit quelque effet, n'est jamais déterminé que par une autre chose singulière, proposition 28, partie 1, dont la nature doit être connue par le moyen du même attribut qui permet de concevoir la nature humaine. Notre puissance d'agir, donc, de quelque manière qu'on la conçoive, peut être déterminée, et conséquemment secondée ou réduite par la puissance d'une autre chose singulière ayant avec nous quelque chose de commun, et non par la puissance d'une chose dont la nature est entièrement différente de la nôtre. Et, puisque nous appelons bon ou mauvais ce qui est cause de joie ou de tristesse, proposition 8, c'est-à-dire scoli de la proposition 2, partie 3, ce qui accroît ou diminue, seconde ou réduit, notre puissance d'agir, une chose dont la nature est entièrement différente de la nôtre ne peut être pour nous ni bonne ni mauvaise. C'est QFD. Proposition 30. Nulle chose ne peut être mauvaise parce qu'elle a de commun avec notre nature, mais dans la mesure où elle est mauvaise pour nous, elle nous est contraire. Démonstration. Nous appelons mauvais ce qui est cause de tristesse, proposition 8, c'est-à-dire, par la définition de la tristesse, scoli de la proposition 11, partie 3, ce qui diminue ou réduit notre puissance d'agir. Si donc une chose, parce qu'elle a de commun avec nous, était mauvaise pour nous, cette chose pourrait diminuer ou réduire ce qu'elle a de commun avec nous. ce qui, proposition 4, partie 3, est absurde. Nulle chose, donc, ne peut être mauvaise pour nous parce qu'elle a de commun avec nous, mais au contraire, dans la mesure où elle est mauvaise, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà montré, peut diminuer ou réduire notre puissance d'agir, elle nous est contraire. Proposition 5, partie 3. CQFD. Proposition 31. Dans la mesure où une chose s'accorde avec notre nature, elle est nécessairement bonne. Démonstration. En tant qu'une chose s'accorde avec notre nature, elle ne peut être mauvaise. Proposition précédente. Elle sera donc nécessairement bonne ou indifférente. Soit posé ce dernier cas, c'est-à-dire qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, rien donc, définition 1, ne suivra de sa nature qui serve à la conservation de notre nature, c'est-à-dire, par hypothèse, à la conservation de la nature de la chose elle-même. Mais cela est absurde, proposition 6, partie 3, en tant qu'elle s'accorde avec notre nature, elle sera donc bonne, nécessairement. CQFD. Corollaire. Il suit de là que plus une chose s'accorde avec notre nature, plus elle nous est utile, au meilleur elle est. Et inversement, une chose nous est plus utile dans la mesure où elle s'accorde mieux avec notre nature. Car en tant qu'elle ne s'accorde pas avec notre nature, elle en sera nécessairement différente ou lui sera contraire. Si elle est différente, alors elle ne pourra, proposition 29, être ni bonne ni mauvaise. Si au contraire, elle sera donc contraire à la nature qui s'accorde avec la nôtre, c'est-à-dire, proposition précédente, contraire au bon ou mauvaise. Rien donc ne peut être bon, sinon en tant qu'il s'accorde avec notre nature. Et par suite, plus une chose s'accorde avec notre nature, plus elle est utile, et inversement. C'est que FD. Proposition 32. Dans la mesure où les hommes sont soumis aux passions, on ne peut dire qu'ils s'accordent en nature. Démonstration. Quand on dit que des choses s'accordent en nature, on entend qu'elles s'accordent en puissance, proposition 7, partie 3, mais non en impuissance ou en négation. Et conséquemment, scoli de la proposition 3, partie 3, non plus en passion. En tant que les hommes sont soumis aux passions, on ne peut donc dire qu'ils s'accordent en nature. C'est QFD. Scoli. La chose est aussi évidente par elle-même, qui dit en effet que le blanc et le noir s'accordent seulement en ce que ni l'un ni l'autre n'est rouge, affirme absolument que le blanc et le noir ne s'accordent en rien. De même, aussi, dire que la pierre et l'homme s'accordent seulement en ce que tous deux sont finis, impuissants, ou n'existent pas par la nécessité de leur nature, ou enfin sont indéfiniment surpassés par la puissance des causes extérieures, c'est affirmer d'une manière générale que la pierre et l'homme ne s'accordent en aucune chose. Les choses qui s'accordent en une négation seulement, c'est-à-dire en ce qu'elles ne sont pas, ne s'accordent en réalité en rien. Proposition 33. Les hommes peuvent différer en nature en tant qu'ils sont dominés par des affections qui sont des passions. Et dans la même mesure, le même homme est changeant et inconstant. Démonstration. La nature ou essence des affections ne peut s'expliquer par notre seule essence ou nature. Définition 1 et 2, partie 3. Mais elle doit être définie par la puissance, c'est-à-dire, proposition 7, partie 3, la nature des causes extérieures comparée à la nôtre. D'où vient qu'il y a autant d'espèces de chaque affection qu'il y a d'espèces d'objets par où nous sommes affectés. Proposition 56, partie 3. Et que les hommes sont affectés de diverses manières par un seul et même objet. Proposition 51, partie 3. et dans la mesure où cela a lieu, diffèrent en nature. Par là enfin, même proposition 51 partie 3, un seul et même homme est affecté de diverses manières à l'égard du même objet et dans cette mesure est changeant, etc. CQFD. Proposition 34. En tant que les hommes sont dominés par des affections qui sont des passions, ils peuvent être contraires les uns aux autres. Démonstration. Un homme, par exemple Pierre, peut être cause que Paul soit contristé parce qu'il a quelque chose de semblable à une chose que Paul a en haine. Proposition 16, partie 3. Ou parce que Pierre est seul en possession d'une chose que Paul aime aussi. Proposition 32, partie 3, avec son scoli. Ou, pour d'autres causes, voir les principales dans le scoli de la proposition 55, partie 3, par là, il arrivera, définition 7 des affections, que Paul et Pierre en haine. Et en conséquence, il arrivera facilement, proposition 40, partie 3, avec le scoli, que Pierre, en retour, est Paul en haine. Et ainsi, proposition 39, partie 3, qu'ils s'efforcent de se faire du mal l'un à l'autre, c'est-à-dire, proposition 30, soit contraire l'un à l'autre. Mais une affection de tristesse est toujours une passion, proposition 59, partie 3. Donc, les hommes, en tant qu'ils sont dominés par des affections qui sont des passions, peuvent être contraires les uns aux autres. CQFD. Scoli. J'ai dit que Paul peut avoir Pierre en haine parce qu'il imagine que Pierre possède ce qu'il aime aussi, lui, Paul. Il semble suivre de là, d'abord que ces deux hommes se portent dommage l'un à l'autre parce qu'ils aiment le même objet, et conséquemment s'accordent en nature. Et si cela est vrai, les propositions 30 et 31 seraient donc fausses. Si cependant nous voulons peser l'argument dans une balance juste, nous verrons que tout cela s'accorde entièrement. Ces deux hommes ne sont pas sujets de peine l'un pour l'autre en tant qu'ils s'accordent en nature, c'est-à-dire aiment tous deux le même objet, mais en tant qu'ils diffèrent l'un de l'autre. En tant en effet que tous deux aiment le même objet, l'amour de l'un et de l'autre est par là alimenté. Proposition 31, partie 3. C'est-à-dire, définition 6 des affections, que la joie de l'un et de l'autre est par là alimentée. Il s'en faut donc de beaucoup qu'ils soient sujets de peine l'un pour l'autre en tant qu'ils aiment le même objet et s'accordent en nature. Ce qui les rend sujets de peine l'un pour l'autre, ce n'est aucune autre cause, comme je l'ai dit, que la différence de nature supposée entre eux. Nous supposons en effet que Pierre a l'idée d'une chose aimée, actuellement possédée par lui, et Paul, au contraire, celle d'une chose aimée actuellement perdue. Par là, il arrive que l'un est affecté de tristesse, l'autre de joie, et que dans cette mesure ils sont contraires l'un à l'autre. Et nous pouvons facilement le montrer de cette manière, les autres causes de haine dépendent de cela seul que les hommes diffèrent en nature, et non de ce en quoi ils s'accordent. Proposition 35. Dans la mesure seulement où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Démonstration. En tant que les hommes sont dominés par des affections qui sont des passions, ils peuvent être différents en nature. Proposition 33. Et contraires les uns aux autres. Proposition précédente. Mais les hommes sont dits actifs dans la mesure seulement où ils vivent sous la conduite de la raison. Proposition 3, partie 3. Et ainsi, tout ce qui suit de la nature humaine, en tant qu'elle est définie par la raison, doit se connaître, définition 2, partie 3, par la seule nature humaine, comme par sa cause prochaine. Mais, puisque chacun, par les lois de sa nature, appète ce qu'il juge être bon et s'efforce d'écarter ce qu'il juge être mauvais, proposition 19, puisque, en outre, ce que nous jugeons être bon ou mauvais par le commandement de la raison est bon ou mauvais nécessairement, proposition 41, partie 2, les hommes, dans la mesure seulement où ils vivent sous la conduite de la raison, font nécessairement ce qui est nécessairement bon pour la nature humaine et par suite pour tout homme, c'est-à-dire, corollaire de la proposition 31, ce qui s'accorde avec la nature de tout homme. Donc, les hommes aussi s'accordent nécessairement toujours entre eux en tant qu'ils vivent sous la conduite de la raison. C'est QFD. Corollaire 1. Il n'est donné dans la nature aucune chose singulière qui soit plus utile à l'homme qu'un homme vivant sous la conduite de la raison. Car ce qui est à l'homme le plus utile est ce qui s'accorde le plus avec sa nature, corollaire de la proposition 31. C'est-à-dire, comme il est connu de soi, que c'est l'homme. Mais l'homme agit absolument par les lois de sa nature quand il vit sous la conduite de la raison. Définition 2, partie 3. Et dans cette mesure seulement, s'accorde toujours nécessairement avec la nature d'un autre homme. Proposition précédente. Il n'y a donc rien parmi les choses singulières de plus utile à l'homme qu'un homme. Etc. CQFD. Corollaire 2. Quand chaque homme cherche le plus ce qui lui est utile à lui-même, alors les hommes sont les plus utiles les uns aux autres. Car, plus chacun cherche ce qui lui est utile et s'efforce de se conserver, plus il est doué de vertu. Proposition 20. Ou, ce qui revient au même, définition 8, plus grande est la puissance dont il est doué pour agir suivant les lois de sa nature, c'est-à-dire, proposition 3, partie 3, pour vivre sous la conduite de la raison. Mais quand les hommes vivent sous la conduite de la raison, proposition précédente, c'est alors qu'ils s'accordent le plus en nature. Donc, corollaire précédent, quand chacun cherche le plus ce qui lui est utile à lui-même, c'est alors que les hommes sont le plus utiles les uns aux autres. C'est QFD. Scoli. Ce que nous venons de montrer, l'expérience même l'atteste chaque jour par des témoignages si clairs que presque tous répètent. L'homme est un dieu pour l'homme. Il est rare, cependant, que les hommes vivent sous la conduite de la raison. Telle est leur disposition que la plupart sont envieux et causent de peine les uns pour les autres. Ils ne peuvent cependant guère passer la vie dans la solitude. Et, à la plupart, agrée fort cette définition que l'homme est un animal sociable. Et en effet, les choses sont arrangées de telle sorte que de la société commune des hommes naissent beaucoup plus d'avantages que de dommages. Que les satiriques, donc, tournent en dérision les choses humaines, que les théologiens les détestent, que les mélancoliques louent, tant qu'ils peuvent, une vie inculte et agreste, qu'il méprise les hommes et admire les bêtes. Les hommes n'en éprouveront pas moins qu'ils peuvent beaucoup plus aisément se procurer par un mutuel secours ce dont ils ont besoin, et qu'ils ne peuvent éviter les périls les menaçant de partout que par leurs forces jointes. Et je passe ici sous silence qu'il vaut mieux considérer les actions des hommes que celles des bêtes, et que ce qui est humain est plus digne de notre connaissance. Mais de cela, nous traiterons plus longuement ailleurs. Proposition 36. Le bien suprême de ceux qui sont des suivants de la vertu est commun à tous, et tous peuvent en tirer pareillement de la joie. Démonstration. Agir par vertu, c'est agir sous la conduite de la raison. Proposition 24. Et tout ce que nous nous efforçons de faire par raison, c'est connaître. Proposition 26. Ainsi, proposition 28, le bien suprême de ceux qui sont des suivants de la vertu est de connaître Dieu. C'est-à-dire, proposition 47, partie 2, avec son scoli, un bien qui est commun à tous les hommes et peut être possédé pareillement par tous les hommes en tant qu'ils sont de même nature. C'est QFD. Scoli. Quelqu'un demande-t-il, mais si le bien suprême de ceux qui sont des suivants de la vertu n'était pas commun à tous, ne s'en suivrait-il pas, comme ci-dessus, proposition 34, que les hommes qui vivent sous la conduite de la raison, c'est-à-dire les hommes en tant qu'ils s'accordent en nature, proposition 35, seraient contraires les uns aux autres? Qu'ils tiennent pour répondu que, non par accident, mais par une conséquence de la nature même de la raison, il advient que le bien suprême de l'homme est commun à tous, cela se déduisant de l'essence même de l'homme en tant qu'elle est définie par la raison. L'homme, ne pouvant ni être conçu, s'il n'avait le pouvoir de tirer de la joie de ce bien suprême. Il appartient en effet à l'essence de l'âme humaine, proposition 47, partie 2, d'avoir une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. Proposition 37. Le bien qu'appète pour lui-même quiconque est un suivant de la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes, et cela d'autant plus qu'il aura acquis une connaissance plus grande de Dieu. Démonstration. Les hommes, en tant qu'ils vivent sous la conduite de la raison, sont ce qu'il y a de plus utile à l'homme. Corollaire 1 de la proposition 35. Et ainsi, proposition 19, nous nous efforcerons, sous la conduite de la raison, de faire que les hommes vivent sous la conduite de la raison. Mais le bien qu'appète pour lui-même quiconque vit sous le commandement de la raison, c'est-à-dire, proposition 24, est un suivant de la vertu, c'est connaître, proposition 26. Donc, le bien que quiconque est un suivant de la vertu appète pour lui-même, il le désirera aussi pour les autres hommes. De plus, ce désir, en tant qu'il se rapporte à l'âme, est l'essence même de l'âme, définition 1 des affections. Or, l'essence de l'âme consiste dans une connaissance, proposition 2, partie 2, qui enveloppe celle de Dieu, proposition 47, partie 2, et ne peut, sans elle, proposition 15, partie 1, ni être conçu. Par suite, plus grande est la connaissance de Dieu qu'enveloppe l'essence de l'âme, plus grand aussi sera le désir dont le suivant de la vertu désire pour autrui le bien qu'il appète pour lui-même. C'est QFD. Autre démonstration. Le bien que l'homme appète pour lui-même et aime, il l'aimera de façon plus constante s'il voit que d'autres l'aiment. Proposition 31, partie 3. Il fera donc effort, corollaire de la même proposition, pour que les autres l'aiment. Et puisque ce bien, proposition précédente, est commun à tous, et que tous peuvent s'en épanouir pareillement, il fera donc effort, pour la même raison, pour que tous en tirent de la joie, et d'autant plus, proposition 37, partie 3, qu'il jouira davantage de ce bien. C'est QFD. Scoli 1. Qui fait effort seulement à cause de la passion qu'il affecte, pour que les autres aiment ce qu'il aime lui-même et vivent suivant sa propre complexion, agit par impulsion seulement, et pour cette raison est odieux, surtout à ceux qui ont d'autres goûts, et de leur côté font effort aussi par impulsion, pour que tout autre qu'eux-mêmes vive suivant leur complexion. De plus, comme l'objet suprême que les hommes appètent en vertu d'une affection est de telle nature souvent qu'un seul puisse le posséder, il arrive ainsi que ceux qui aiment ne restent pas d'accord avec eux-mêmes intérieurement. Et au temps même où ils s'épanouissent à chanter les louanges de la chose aimée, ont peur d'être crus. Qui, au contraire, s'efforce de conduire les autres suivant la raison, agit non par impulsion, mais avec humanité et douceur, et reste pleinement en accord intérieur avec lui-même. Pour continuer, je ramène à la religion tous les désirs et toutes les actions dont nous sommes cause, en tant que nous avons l'idée de Dieu, ou en tant que nous connaissons Dieu. J'appelle moralité le désir de faire du bien, qui tire son origine de ce que nous vivons sous la conduite de la raison. Quant au désir qui tient un homme vivant sous la conduite de la raison, de s'attacher les autres par le lien de l'amitié, je l'appelle honnêteté. Honnête, ce que louent les hommes vivant sous la conduite de la raison. Vilain, au contraire, ce qui s'oppose à l'établissement par l'amitié. Par là, j'ai aussi montré quels sont les fondements de la cité. La différence entre la vertu véritable et l'impuissance se perçoit aisément dès lors. La vertu véritable ne consistant en rien d'autre qu'à vivre sous la conduite de la raison. L'impuissance consistant seulement en ce que l'homme se laisse passivement conduire par les choses extérieures à lui et déterminé par elles à faire ce que demande la constitution du monde extérieur et non ce que demande sa propre nature considérée en elle seule. Voilà ce que, dans le scoli de la proposition 18, j'ai promis de démontrer. On peut voir par là que cette loi qui interdit d'immoler les bêtes est fondée plutôt sur une vaine superstition et une miséricorde de femme que sur la saine raison. La règle de la recherche de l'utile nous enseigne bien la nécessité de nous unir aux hommes, mais non aux bêtes ou aux choses dont la nature est différente de l'humaine. Nous avons à leur endroit le même droit qu'elles ont sur nous. Ou plutôt, le droit de chacun étant défini par sa vertu ou sa puissance, les hommes ont droit sur les bêtes beaucoup plus que les bêtes sur les hommes. Je ne nie cependant pas que les bêtes sentent, mais je nie qu'il soit défendu pour cette raison d'aviser à notre intérêt, d'user d'elles et de les traiter suivant qu'il nous convient le mieux. Puisqu'elles ne s'accordent pas avec nous en nature, et que leurs affections diffèrent en nature des affections humaines, scoli de la proposition 57, partie 3. Il me reste à expliquer ce qu'est le juste, l'injuste, le péché et enfin le mérite. Mais voir pour cela le scoli suivant. Scoli 2. Dans l'appendice de la première partie, j'ai promis d'expliquer ce qu'est la louange et le blâme, le mérite et le péché, le juste et l'injuste. Sur la louange et le blâme, je me suis expliqué dans le scoli de la proposition 29, partie 3. Sur les autres points, il y aura lieu de dire ici quelque chose. Mais auparavant, il me faut dire quelques mots sur l'état naturel et l'état civil de l'homme. Chacun existe par le droit suprême de la nature, et conséquemment, chacun fait par le droit suprême de la nature ce qui suit de la nécessité de sa propre nature. Et ainsi, chacun juge par le droit suprême de la nature quelle chose est bonne, quelle mauvaise, ou avise à son intérêt suivant sa complexion. Proposition 19 et 20. Se venge, corollaire 2 de la proposition 40, partie 3, et s'efforce de conserver ce qu'il aime, de détruire ce qu'il a en haine. Proposition 28, partie 3. Que si les hommes vivaient sous la conduite de la raison, chacun posséderait le droit qui lui appartient. Corollaire 1 de la proposition 35. Sans aucun dommage pour autrui. Mais comme les hommes sont soumis à des affections, corollaire de la proposition 4, qui surpassent de beaucoup leur puissance ou l'humaine vertu, proposition 6. Ils sont traînés en divers sens, proposition 33, et sont contraires les uns aux autres, proposition 34, alors qu'ils ont besoin de secours mutuel, scolie de la proposition 35. Afin donc que les hommes puissent vivre dans la concorde et être en aide les uns aux autres, il est nécessaire qu'ils renoncent à leurs droits naturels et s'assurent les uns aux autres qu'ils ne feront rien qui puisse donner lieu à un dommage pour autrui. En quelles conditions cela est possible, à savoir que les hommes, nécessairement soumis aux affections, corollaire de la proposition 4, inconstants et changeants, proposition 33, puissent se donner cette assurance mutuelle et avoir foi les uns dans les autres. Cela se voit par la proposition 7 de cette partie et la proposition 39 de la troisième. J'y dis, en effet, que nulle affection ne peut être réduite, sinon par une affection plus forte, et contraire à celle qu'on veut réduire, et que chacun s'abstient de porter dommage par la peur d'un dommage plus grand. Par cette loi, donc, une société pourra s'établir si elle revendique pour elle-même le droit qu'a chacun de se venger et de juger du bon et du mauvais, et qu'elle ait ainsi le pouvoir de prescrire une règle commune de vie, d'instituer des lois et de les maintenir, non par la raison, qui ne peut réduire les affections, scolie de la proposition 17, mais par des menaces. Cette société, maintenue par des lois, et le pouvoir qu'elle a de se conserver, est appelée cité, et ceux qui sont sous la protection de son droit, citoyens, par où nous connaissons facilement que dans l'état naturel, il n'y a rien qui soit bon ou mauvais du consentement de tous, puisque chacun dans cet état naturel avise seulement à sa propre utilité, et suivant sa complexion, décrète quelle chose est bonne, quelle mauvaise, n'ayant des règles que son intérêt. Qu'enfin, il n'est tenu par aucune loi d'obéir à personne, sinon à lui-même. Et ainsi, dans l'état naturel, le péché ne peut se concevoir, mais bien dans l'état civil, quand il a été décrété, du consentement de tous, quelle chose est bonne et quelle mauvaise, et que chacun est tenu d'obéir à la cité. Le péché n'est donc rien d'autre que la désobéissance, laquelle est, pour cette raison, punie en vertu du seul droit de la cité. Et au contraire, l'obéissance est comptée aux citoyens comme mérite, parce qu'il est par cela même jugé digne de jouir des avantages de la cité. De plus, dans l'état naturel, nul n'est, du consentement commun, seigneur d'autre chose, et il n'y a rien dans la nature qui puisse être dit la chose de l'un ou de l'autre. Mais tout appartient à tous. Par suite, dans l'état naturel, on ne peut concevoir de volonté d'attribuer à chacun le sien, d'enlever à quelqu'un ce qui est à lui. C'est-à-dire, dans l'état naturel, il n'y a rien qui puisse être dit juste ou injuste, mais bien dans l'état civil, où, du consentement commun, il est décrété quelle chose est à l'un, quelle à l'autre. Il apparaît par là que le juste et l'injuste, le péché et le mérite, sont des notions extrinsèques, non des attributs qui expliquent la nature de l'âme. Mais assez sur ce point.